Sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous parlerons du climat préélectoral en Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui que s'ouvre la campagne électorale, une campagne qui s'annonce tendue, puisque la candidature d'Alassane Ouattara à un troisième mandat est controversée, et l'opposition affirme que les conditions ne sont pas réunies pour que l'élection se tienne dans 2 semaines. Et c'est donc dans ce contexte que les Ivoiriens sont invités depuis hier à retirer leur carte d'électeur. Nous sommes à 16 jours de l'élection. Alors dites-nous, vous qui êtes sur place, dans quel état d'esprit êtes-vous? Irez-vous récupérer votre carte? Irez-vous voter le 31 octobre alors que deux des quatre candidats laissent planer le doute sur un boycott du scrutin? 33 9 693 693 70. Et comme à chaque fois sur la Côte d'Ivoire, vous êtes plusieurs centaines à poster des commentaires sur Facebook, sur WhatsApp. Évidemment, j'en lirai quelques-uns tout à l'heure pour alimenter la réflexion, alimenter le débat. Mais d'abord, vos questions à la rédaction de RFI, à nos experts ici à Paris, nos envoyés spéciaux, nos correspondants. Des questions pour commencer sur la décision de la Chine de rejoindre l'initiative mondiale pour un vaccin contre le Covid-19. Vous avez certainement entendu parler du COVAX. Bonjour Eddy Divin.
Bonjour Anne Gomez, bonjour milliers d'auditeurs de la RFI.
Merci de nous appeler de Kinshasa, nous vous écoutons.
Certainement Juan. La Chine a rejoint l'initiative COVAX dans le but de distribuer équitablement des vaccins contre Covid-19. Alors, j'aimerais savoir, comment expliquer ces revirements chinois qui, mi-septembre, n'avaient pas adhéré à l'initiative de l'OMS?
Oui, le COVAX, je le rappelle quand même, c'est ce dispositif mis en place au mois d'août par l'Organisation mondiale de la santé pour faciliter l'accès des pays pauvres aux vaccins contre le coronavirus quand il sera évidemment disponible. Bonjour Stéphane Lagarde.
Bonjour Juan, bonjour Eddy.
Merci d'être avec nous, correspondant permanent de RFI à Pékin. Eddy Divin le rappelait à l'instant, dans un premier temps, la Chine refusait de rejoindre l'initiative de l'OMS. Et là, patatras, elle annonce finalement son adhésion.
Oui, alors on n'a pas eu d'explication ici officielle, en tout cas à ce retard à l'allumage. Peut-être que c'est lié aux négociations qui étaient en cours, vous le savez, pour la validation des candidats vaccins chinois par l'Organisation mondiale de la santé. On rappelle... et dit que 9 candidats vaccins ont déjà été approuvés par la coalition d'anticipation des épidémies et de l'innovation. Alors c'est cette coalition donc qui est pilotée par l'OMS qui va mener ce programme COVAX. Et 9 autres, dont 2 chinois, 2 candidats vaccins chinois, sont encore en cours d'évaluation. Il y a aussi une question peut-être d'opportunité, d'image pour la Chine. On a parlé de la diplomatie des masques à un moment, en début de la première vague épidémique. Il y a eu... Maintenant, on parle de la diplomatie du vaccin. Il y aura peut-être demain celle des remèdes. En tout cas, la Chine, par ce nouveau geste, eh bien, se démarque de la Russie de Poutine, mais surtout de l'Amérique de Donald Trump, qui continue à faire cavalier seul. Pékin entend montrer finalement qu'elle veut participer à l'effort mondial dans la lutte contre cette pneumonie virale. Elle est prête à partager ses connaissances, donc, et cultive sa relation privilégiée avec les pays pauvres. On rappelle que la porte-parole de la diplomatie chinoise a dit l'autre jour que Pékin souhaitait donner la priorité de la redistribution de ce vaccin aux pays pauvres. Et c'est aussi, Juan, peut-être, eh bien, une manière de répondre aux critiques nombreuses adressées à la Chine sur sa gestion de l'épidémie.
Oui, la Chine qui cherche donc à redorer son image à l'international. Vous avez une autre question, Eddy Divin?
Oui. Quelle implication cette décision a-t-elle sur la distribution des candidats vaccins chinois vers les pays en développement?
Oui, d'autant que la Chine a promis aux pays africains un accès prioritaire aux vaccins chinois. Stéphane Lagarde à Pékin.
Alors pareil, je suis désolé Eddy, mais je dois le dire, on n'a pas encore d'éléments précis de réponse. Pékin, comme d'autres participants, n'a pas dit ni comment ni à quelle hauteur la Chine entendait soutenir le programme. Elle a effectivement répété qu'elle comptait s'adresser d'abord aux pays en développement, mais c'est un engagement de poids, c'est ça surtout qui compte, qui a été initié en mai dernier par Xi Jinping. La Chine se sent probablement gênée encore une fois, eh bien, du fait que la pandémie a été découverte ici, en l'hiver dernier. Et en mai dernier, donc, le président chinois a promis 2 milliards de dollars déjà sur 2 ans pour soutenir la réponse mondiale contre le coronavirus, plus des aides financières à plusieurs pays sur une base bilatérale. Alors, pour de nombreux acteurs du secteur médical, eh bien, cette implication, ce geste de la Chine est donc une très bonne nouvelle. comme nous l'a redit notamment Jean-Michel Pied-Daniel, que nous avons appelé avant cette émission, c'est le directeur du bureau de l'ONG DNDY à Kuala Lumpur, Jean-Michel Pied-Daniel, et donc il est très attaché, son ONG s'occupe surtout de médicaments, hein, pas de vaccins, mais c'est une ONG qui est très attachée aux efforts communs face aux maladies.
Ce qui est important pour que tous ces mécanismes fonctionnent, c'est d'avoir une approche qui soit une approche de santé publique. Et c'est vrai que le véritable accès que ce mécanisme va mettre en place sont des éléments très importants. Hein. Donc le prix, est-ce qu'il va y avoir une production locale, est-ce qu'il va y avoir un transfert de technologie. Et beaucoup d'entre nous espèrent qu'avec l'arrivée de la Chine, on va avoir un rééquilibrage qui va vraiment aller dans le sens de l'accès. Donc c'est très important d'intégrer des nouveaux acteurs comme la Chine, et c'est ce qui fera une grosse différence pour tout le monde, y compris pour l'Afrique. Pour ce qui est d'une réponse globale au Covid-19, il est bien évidemment nécessaire et important d'intégrer tous les pays qui ont une compétence, une capacité à produire des vaccins. Un pays comme la Malaisie, par exemple, mais aussi la Thaïlande, sont tout à fait capables de produire des vaccins ou des médicaments, surtout s'il y a un transfert de technologie avec.
Pour finir, simplement, il y a donc transfert de technologie, dit ce responsable d'ONG. On va partager ces vaccins. COVAX est destiné à vacciner 3% des habitants dans un premier temps de chaque pays, hein, pour assurer les services de santé, puis 20% de la population dans un deuxième temps, avec 2 milliards de doses, c'est important de le dire, de vaccins que s'est engagé à fournir donc cette coalition d'ici à la fin de l'année prochaine, Juan.
2 milliards de vaccins. A-t-on répondu à vos questions, Eddy Divin ?
Je suis satisfait. Je remercie Stéphane, votre invité.
Stéphane Lagarde, correspondant permanent de RFI à Pékin, à qui on souhaite une bonne fin d'après-midi. Bonne journée à vous, Eddy Divin. Vous nous rappelez quand vous le souhaitez. Hein. On est ouvert tous les jours, du lundi au vendredi, à 8h10, temps universel. 33 9 693 693 70. J'ai le plaisir d'accueillir Antoine Bondaz. Bonjour Antoine Bondaz.
Bonjour.
Directeur du programme Corée à la Fondation pour la Recherche Stratégique, vous enseignez à Sciences Po Paris. On s'est permis de vous appeler ce matin car on a reçu des questions concernant la Corée du Nord. Idriss, soyez le bienvenu, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à Antoine Bondaz et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Nous vous écoutons, vous avez des questions donc sur la Corée du Nord.
Oui, exactement Juan. La Corée du Nord a organisé un défilé militaire pour célébrer le 75e anniversaire de la fondation du régime, présentant notamment un missile balistique intercontinental de 25 mètres de long. Alors Juan, que sait-on de ce nouveau missile ?
Ah, bonne question que vous posez effectivement Antoine Bondaz. On a vu lors de cette parade militaire, présentée par les autorités comme la plus grande parade militaire de l'histoire de la Corée du Nord, je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, ce qui a surpris les observateurs, c'est qu'à la fin de la parade, il a été présenté un gigantesque missile balistique intercontinental de 25 mètres de long. Que savez-vous de ce missile ?
Alors on sait assez peu de choses pour l'instant, il faut être très honnête, si ce n'est les images qu'on peut essayer d'interpréter. Ce missile, donc, qu'on pourrait qualifier de Hwasong 16, puisque c'est le dernier missile présenté par la Corée du Nord et que le précédent missile intercontinental ICBM se prénommait le Hwasong 15, a été nommé le Hwasong 15. Ce missile intercontinental, il est de taille considérable, puisqu'il est bien plus grand que le précédent missile que la Corée du Nord avait notamment testé, on s'en rappelle, en novembre 2017. Alors, cette taille impressionnante envoie un message direct aux États-Unis, non pas tant sur une question de portée, puisque le précédent missile pouvait déjà frapper théoriquement l'ensemble du territoire américain, mais plutôt en termes de la charge utile que peut emporter ce missile. Le message, quel est-il ? Il est que la Corée du Nord cherche à terme à disposer d'un missile intercontinental suffisamment puissant, suffisamment lourd, pour pouvoir envoyer plusieurs armes nucléaires sur les États-Unis en même temps, mais aussi incorporer dans la tête du missile des leurres qui permettront, entre guillemets, de saturer la défense anti-missile américaine.
Ouais. Alors on en est extrêmement loin. Alors justement, on en est loin, ça veut dire quoi concrètement, Antoine Bondaz ? D'après vos informations, c'est que ce missile, à l'heure actuelle, finalement, il n'est pas opérationnel, il ne fonctionne pas vraiment ?
Alors, comme le fait traditionnellement la Corée du Nord, là, elle a présenté, entre guillemets, un prototype qui est avant tout un message politique envoyé aux États-Unis. Il y a des défis techniques considérables avant que ce missile soit opérationnel. Premièrement, il faudrait le tester, s'assurer que la motorisation de ce missile à carburant liquide fonctionne. Ensuite, que la tête du missile, ce qu'on appelle le véhicule de réentrée, soit capable de rentrer dans l'atmosphère sans se désintégrer, etc. Il y a énormément de défis techniques qui se posent aux Nord-Coréens. Pour l'instant, on n'en est pas du tout à un missile opérationnel. Encore une fois, c'est avant tout un message politique aux États-Unis pour dire ce sur quoi tend le programme nucléaire et balistique nord-coréen, et surtout pour rappeler aux États-Unis et avant les élections américaines, potentiellement pour le prochain président Joe Biden, que la Corée du Nord poursuit son programme nucléaire.
Oui, effectivement, présenter un tel missile à 3 semaines de l'élection présidentielle, ce n'est pas anodin. Idriss, vous avez une autre question à poser à Antoine Bondaz.
Oui, Juan, qu'est-ce qui explique cette avancée technologique de la Corée du Nord? Le pays a-t-il bénéficié de l'aide technique russe ou chinoise?
Ouais. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent, hein, depuis qu'on présente cette émission, Antoine Bondaz. On se demande, on s'interroge, en tout cas les auditeurs, comment la Corée du Nord, qui est le pays incontestablement le plus fermé au monde, parvient à obtenir la technologie suffisante pour créer, pour fabriquer de tels missiles.
Alors c'est aussi une question que se pose le service de renseignement du monde entier, parce que c'est une question extrêmement importante. On a assez peu d'éléments pour l'instant, par contre il y a des pistes de réflexion. Premièrement, sur la motorisation, il est probable que dans les années 90, la Corée du Nord ait accédé à certaines technologies soviétiques, notamment depuis l'Ukraine, et puis sur le fameux camion qui transporte ce missile, qu'on appelle un TEL, il est possible potentiellement que ce soit une version modifiée d'un camion chinois qui est initialement utilisé pour transporter du bois, c'est-à-dire des troncs d'arbres de taille et de poids considérables. Là encore, il y a quelques pistes de réflexion, mais pour l'instant, aucun service de renseignement, notamment occidental, n'a annoncé, entre guillemets, avoir des preuves qu'il y aurait une prolifération directe de la part de la Russie ou de la Chine.
Idriss, on vous souhaite une bonne journée à Abidjan.
Merci Juan, merci à Antoine Bondaz.
Merci à tous les deux, Antoine Bondaz, directeur du programme Corée à la Fondation pour la Recherche Stratégique. 10h22 à Paris, d'autres questions, des questions maintenant concernant l'opposition en République démocratique du Congo sur la présidence tournante de Lamuka, la plateforme de l'opposition sur place. Bonjour Claude.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de la Peste d'actualité.
Vous êtes à Kisangani, nous vous écoutons.
Oui, Claude de Reza Fouguer, je vous appelle depuis la RDC précisément.
Oui.
Dans la ville de Kisangani. Lundi dernier à Kinshasa, une cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu entre Adolphe Mouzito et Martin Fayulu au sein de la plateforme politique Lamuka. Quelles seront les priorités de Fayulu pour ces prochains mois?
Alors, effectivement, il y a eu passation de pouvoir il y a quelques jours, après Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mouzito, c'est donc désormais Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle de 2018, qui prend donc la tête de cette coalition, de cette plateforme de l'opposition. Bonjour Patient Ligaudi.
Bonjour Juan, bonjour Claude, bonjour Kisangani.
Correspondant de RFI à Kinshasa, quelles sont les priorités de Martin Fayulu pour les prochains mois?
Martin Fayulu est clair là-dessus, il reviendra sur la thématique des réformes institutionnelles, pour lui c'est la priorité, il faut que les principales institutions du pays soient réformées pour permettre, dit-il, le début d'un véritable changement, il parle de plusieurs secteurs, l'exécutif, la justice, le pouvoir législatif et même ce qu'on appelle ici les institutions d'appui à la démocratie, parmi lesquelles on a la commission électorale. À ce propos, il reviendra aussi et surtout sur sa volonté de voir s'organiser des élections anticipées pour régler, dit-il, la question de légitimité. Martin Fayulu revient également beaucoup sur le thème, dit-il, du projet de balkanisation du pays. Il en fait également son cheval de bataille. Ils vont à la situation sécuritaire dans l'est du pays et un projet de démembrement du Congo. Il est également parmi les personnalités qui exigent la mise en place d'un tribunal pénal international pour juger les crimes graves commis en RDC.
Ouais, le réseau téléphone n'est pas très bon avec Kisangani, mais Claude voulait savoir pourquoi le communiqué publié lors de cette passation de pouvoir insistait sur l'importance du suffrage universel direct pour l'élection du président de la République.
Oui, Rouhani, il faut dire que pour la plateforme Lamuka, il faut qu'il y ait, on va dire, une unité dans l'action. Il faut également que tous ceux qui prennent le pouvoir au sein de la MUCA aient du temps pour déployer la stratégie, pour déployer l'action. Pour eux, il faut plus de sérénité. Ils pensent que cette décision renforcera l'unité de la MUCA et l'efficacité dans ses actions.
Bien, voilà qui est dit. Merci infiniment, patient Ligaudy, d'avoir été avec nous. Claude, bonne journée à Kisangani. Le réseau téléphone n'était pas très bon, mais enfin, on a compris l'essentiel. Et là aussi, vous n'hésitez pas à vous nous rappeler dès que vous le souhaitez. Vous êtes évidemment le bienvenu. On va terminer cette première partie avec des questions concernant la Biélorussie, la répression policière qui s'accentue semaine après semaine en Biélorussie. La population manifeste pour contester la réélection d'Alexandre Loukachenko. Bonjour Bertino.
Bonjour Juan.
Bienvenue Bertino, vous êtes à Cotonou, au Bénin, nous vous écoutons.
Alors Juan, l'Union européenne a pris des sanctions à l'encontre du pouvoir biélorusse. Alors quel est le contenu des sanctions prises et comment est-ce que les autorités biélorusses réagissent?
Oui, c'est vrai que des sanctions ont été prises en début de semaine par les ministres européens des Affaires étrangères contre le régime d'Alexandre Loukachenko. Alexandra Goujon, bonjour.
Bonjour.
Maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université de Franche-Comté, vous êtes spécialiste de la Biélorussie. L'Union européenne se dit donc prête à adopter des sanctions, certes, mais des sanctions qui viseraient directement le président réélu.
Oui, alors ces sanctions, elles sont de nature assez classique, c'est-à-dire l'Union européenne, ce n'est pas une structure qui aime adopter des sanctions. Elle saisit toujours une opportunité pour les lever, pour les suspendre. Elle préfère privilégier le dialogue. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre que les sanctions avaient été levées à l'égard de la Biélorussie en 2016, pardon. Mmh. Et donc, elles ont été rétablies suite notamment aux violences et aux falsifications électorales. Elles touchent plus d'une quarantaine de personnes, c'est-à-dire des personnes qui sont impliquées dans le commandement des forces de l'ordre, y compris par exemple le ministre de l'Intérieur, et des personnes qui sont membres de la commission électorale et impliquées donc dans les falsifications. Elles vont toucher donc ces personnes qui sont interdites de séjour sur le territoire de l'Union européenne et dont il y a un gel des avoirs dans les banques situées dans l'Union européenne. Pour l'instant, donc, il n'y a pas de sanctions économiques, et c'est un des aspects notamment qui est évoqué, c'est-à-dire que si le régime visait à être davantage répressif, il pourrait y avoir des sanctions économiques.
Oui, mais enfin, les sanctions visent les hauts responsables du régime, y compris Alexandre Loukachenko tout de même.
Là, il y a une petite nuance, c'est-à-dire que cette série de sanctions a été adoptée le 2 octobre, mais en fait, il y a eu une réunion le 12 octobre, effectivement, qui laisse entendre que Alexandre Loukachenko serait inclus dans ces sanctions, mais on n'a pas encore, j'allais dire, le document officiel. Oui. Mais c'est quand même effectivement évoqué, notamment parce que en fait, les Européens ont insisté sur le fait qu'il devait y avoir un dialogue et ils voulaient laisser une porte de sortie à Loukachenko, mais comme il y a eu des violentes répressions le week-end dernier, effectivement, l'Union européenne a envisagé le fait de pouvoir inclure le président qui se dit légitime aujourd'hui en Biélorussie, c'est-à-dire Alexandre Loukachenko.
Donc, interdiction de voyager dans l'Union européenne, gel des avoirs, concrètement, comment réagit-on sur place ?
De toute façon, dès que les sanctions ont été envisagées, le président Loukachenko a réagi de manière extrêmement ferme, notamment au départ à l'égard de la Pologne et de la Lituanie, qui sont les deux pays qui ont mis en place les premières sanctions, en fait, sans attendre la décision européenne, hein, qui a mis un petit peu de temps à arriver. Hein. Donc il n'y a pas, si je puis dire, de réaction officielle particulière.
Oui. Visiblement, la Biélorussie a l'intention de riposter. Hein. Elle affirme avoir établi une liste de personnes européennes interdites d'entrer sur sur son territoire. Pour l'instant, on ne connaît pas l'identité des personnes concernées. Affaire à suivre, évidemment. Merci infiniment, Alexandra Goujon, d'avoir pris quelques minutes pour répondre à Bertineau. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université de Franche-Comté. Dans 10 minutes, on va parler de la Côte d'Ivoire avec le lancement aujourd'hui de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle. Mais d'abord, je vous laisse avec l'ensemble du service Afrique de RFI.